Alors qu'on fête aujourd'hui même l'anniversaire du troisième plan d'aide à la Grèce, l'Union européenne a donc décidé de menacer l'Espagne et le Portugal de sanctions pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de corriger leur déficit. L'Union européenne qui montre ainsi qu'elle reste fermement accrochée à l'orthodoxie budgétaire et favorable à une austérité qu'on peut dire punitive. Ces derniers temps, si on revient à la situation grecque, on l'a pourtant vu s'assouplir un peu et accepter par exemple l'idée d'un allègement de la dette. Alors qu'on attend toujours l'évaluation par les créanciers des conséquences de l'austérité qu'ils ont imposée à la Grèce en échange d'un plan d'aide de 86 milliards d'euros sur 3 ans, c'était donc l'année dernière, nous avons voulu savoir où en est la Grèce sur le plan économique, mais aussi social et politique. Après tout, on ne parlait que de ce sujet il y a tout juste un an. Grèce, le coût du sauvetage, c'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en parler, deux ici en plateau à Paris et une à Athènes. En plateau, nous avons Michel Vakaloulis, bonsoir.
Bonsoir.
En studio plutôt, je devrais-je dire, on n'est pas à la télévision. Vous êtes sociologue, maître de conférence en sciences politiques à Paris 8. Et en face de vous, nous avons Jean-Marc Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'économie à l'ESCP Europe, et vous connaissez bien ces questions qui touchent la Grèce et son endettement notamment, et ce plan d'austérité. Et enfin, au téléphone, donc depuis Athènes, la correspondante de Radio France sur place, Angélique Kourounis, bonsoir.
Bonsoir.
Et je m'adresse d'abord à vous, Angélique, pour une première question, puisque vous êtes sur place. De quelle façon est abordé aujourd'hui cet anniversaire du plan d'aide? Quel est, en quelque sorte, l'état d'esprit des Grecs?
Concrètement, il est abordé par des grèves, puisqu'il y a eu des grèves de transport aujourd'hui pour protester contre les privatisations qui continuent au terme de ce plan de soutien qui a été signé il y a un an. 86 milliards d'euros qui sont prêtés à la Grèce, certes, mais en échange de la poursuite d'une politique d'austérité qui n'a pas porté les fruits escomptés. Je rappelle, la dette, elle était à 120% il y a 5 ans, elle est à 181% du PIB actuellement, et on estime que peut-être en 2018, on va peut-être rediscuter de sa restructuration. Alors les Grecs sont assez désabusés, ils voient que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils votent, ça sera toujours l'austérité. Ils ont espéré très très fort l'année dernière à la même époque avec le référendum de changer l'Europe de l'intérieur, lui donner une orientation plus sociale, faire entendre leur voix. Ça n'a pas été le cas, ils se sont pris un troisième plan qui était encore plus dur que les précédents. Donc il y a vraiment un sentiment d'injustice, de lassitude. Les Grecs sont très très fatigués, ils ne sourient pas. Il y avait une période où il souriait, c'était le sourire était revenu dans la rue, là on ne le voit plus à nouveau. Ils estiment que cette Europe qui est là, qui semble être une impasse, est une Europe qui ne veut pas les entendre, ni eux, ni les autres peuples du sud de l'Europe qui souffrent. Ils sont très très désabusés, ils se demandent pour qui voter, est-ce qu'il va y avoir des élections. Ils s'intéressent même plus aux élections. Je rappelle quand même qu'il y a eu 51% d'abstention aux dernières élections dans un pays où le vote est obligatoire.
C'était les troisièmes élections en une année. Hein. C'était quand même, c'est vrai,
oui,
que c'est un enchaînement de...
Oui. Donc on aurait pu supposer que la loi allait s'appliquer, mais ils ne croient... À mon sens, le plus inquiétant, c'est qu'ils n'ont plus d'espoir. On est revenu à la période 2013 où il n'y a plus d'espoir. Il y a eu cet espoir avec le Syriza, il y a eu un espoir avec le référendum, et puis bon, ils voient qu'il n'y a rien qui marche, on continue, c'est dans les mêmes clous. La seule différence, il faut quand même la noter, c'est que le gouvernement actuel essaye, dans un carcan très très limité, de saupoudrer toutes les mesures qui sont très dures d'une note sociale, c'est-à-dire... Les retraites complémentaires maintenant vont disparaître, il y a de nouvelles baisses dans les salaires et les retraites, une nouvelle augmentation des impôts et de la TVA. D'ailleurs, ça traduit, la consommation a chuté, les exportations ont chuté de 12%, la récession est ralentie, mais elle se creuse, et ça fait 7 ans que ça dure. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le sentiment général, c'est qu'on continue dans une direction, et il y a le gouvernement qui essaye, par exemple, de donner une couverture sociale à tout le monde. 30% des Grecs n'ont pas accès aux soins. Il a ouvert les soins à tout le monde. Il a fait.
Angélique Kourounis, on ne va pas tout dire dès maintenant. Hein. Il faut quand même en garder un petit peu pour le reste de l'émission, si vous le voulez bien. Et puis j'aimerais qu'on entende nos autres invités ici autour de la table. D'abord, peut-être vous, Jean-Marc Daniel, pour réagir à ce que vient de dire Angélique Kourounis, à ce tableau quand même très très noir qu'elle dépeint de la Grèce d'aujourd'hui. Et surtout cette idée, une austérité qui aurait été inutile.
Alors, le tableau est noir. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Hein. La production
production de la Grèce, le revenu des Grecs, est de 26% en dessous de ce qu'elle était en 2008. Et donc, cette année, il n'y aura pratiquement pas de croissance, même il y aura une légère contraction de la production de nouveau. Alors, par rapport à ça, je ferai quand même trois remarques complémentaires. La première remarque, c'est que la Grèce recommence à être sur le circuit économique normal. C'est-à-dire que la Banque centrale a pris la décision, la BCE a pris la décision à la fin du mois de juin, de réinsérer le dispositif monétaire et financier grec dans le dispositif européen traditionnel, ce qui signifie concrètement que les banques grecques vont pouvoir bénéficier du quantitative easing de la BCE. Et donc ça, c'est une nouvelle importante.
Rappelez le quantitative easing, c'est le rachat
de dette et puis la baisse des taux d'intérêt. Donc il va y avoir une baisse assez importante des taux d'intérêt. Donc je crois qu'il y a une forme de normalisation de l'économie grecque qui est en train de se mettre en place, sur laquelle on peut espérer que ça va redynamiser le tissu productif grec. Le deuxième élément qui joue, c'est qu'on est quand même à la veille de la saison touristique. L'année dernière, on avait annoncé une récession de moins de 2%. En réalité, elle a été beaucoup moins importante que ça parce que la saison touristique a été très très bonne. L'économie grecque, c'est beaucoup du tourisme. C'est un quart de l'économie grecque, le tourisme. Les recettes touristiques, la valeur ajoutée du tourisme, c'est 40 à 45 milliards. L'année dernière, c'était 45 milliards. Et cette année, de nouveau, quand on regarde l'évolution des prix du tourisme, ils sont en hausse. Alors que le reste des prix baissent, les prix des produits touristiques est en hausse. C'est-à-dire que la demande de tourisme continue. C'est-à-dire la Grèce bénéficie indirectement des malheurs de ses voisins. C'est-à-dire la situation en Turquie, la situation au Proche-Orient fait que les gens vont maintenant assez spontanément vers la Grèce. Avec un bémol, c'est que la Grèce elle-même commence à donner l'image d'un pays proche du danger. Et donc, il y a un enjeu touristique. Le troisième élément qui me frappe dans ce qui se passe, c'est quand même du côté noir, et c'est l'exode de la population. C'est-à-dire, cette baisse de la production s'accompagne d'un départ de la population, avec aussi un symbole assez fort, qui est le suicide de monsieur Mamidakis, 84 ans, qui était un symbole du capitalisme un peu de connivence à la grecque, qui s'est suicidé la semaine dernière. Et donc, pourquoi il s'est suicidé? Et je dirais que c'est... Alors, c'est triste, mais il s'est suicidé parce que dans les dettes qu'il avait, il y avait toute une dette au fisc, alors que précédemment, il considérait que sa dette au fisc était... Il n'aurait jamais à la payer. Il allait avoir à la payer. Et donc, dans l'accumulation de dettes, il y avait d'autres dettes. Mais il a soudain senti cette forme de pression sur lui. Et donc, il y a une forme d'efficacité de l'administration grecque qui est en train d'apparaître. Alors, de façon négative, puisqu'elle devient un peu punitive. Mais d'un autre côté, il y a quand même une amélioration dans l'efficacité de l'appareil administratif grec que je trouve plutôt de bonnes nouvelles.
Michel Vakaloulis, un petit peu de lumière nous dit Jean-Marc Daniel dans ce tableau très sombre. Quel est-vous votre regard sur la situation?
Oui, je ne sais pas s'il y a de la lumière. L'essentiel, c'est que les indicateurs économiques jusqu'ici n'ont pas été améliorés, ni l'emploi ou à la limite à la marge.
Est-ce qu'on va attendre en une année les indicateurs économiques? Est-ce que c'est ce qu'on attendait que un an après?
Non, mais la question c'est est-ce que toutes les mesures qui ont été appliquées favorisent en quelque sorte la croissance de l'économie et favorisent le retour à l'emploi, favorisent surtout la confiance des investisseurs à l'économie grecque. Je pense que toutes les mesures qui ont été appliquées plaident plutôt pour la logique contraire. Je vais beaucoup insister sur la diminution de la population. La Banque de la Grèce a publié récemment toutes les statistiques qui concernent l'exode de la population à partir de 2008, c'est-à-dire le début de la crise. Il s'agit de 430 000 personnes qui représentent à peu près 4-5% de la population tout court, et beaucoup plus évidemment de la population active. Et plus de la moitié de ces gens-là sont des jeunes diplômés qui partent à l'étranger pour trouver un meilleur sort. Seulement en 2013, il y a eu 100 000 jeunes diplômés qui sont partis, ce qui représente 2% de la population active. Alors cette hémorragie, évidemment, met en cause la possibilité de rebondir, y compris en termes de croissance économique. Mais il y a un phénomène encore plus brutal qui apparaît, une sorte d'euroscepticisme auprès de la population qui est, en quelque sorte, l'accompagnement d'un discrédit tout court de toute la classe politique, y compris cette fois-là de Syriza, qui était élu avec des promesses de lutter contre les mémorandums, et se retrouve en fin de course en train d'appliquer la feuille de route des créanciers avec parfois une brutalité qui va plus loin que les gouvernements précédents, justement parce qu'il s'agit de radicaliser les effets d'austérité. Donc il y a une montée d'euroscepticisme qui s'explique à travers les effets de crise et d'austérité, et il y a y a une grande partie de la population aujourd'hui qui est dans la logique, puisque l'euro nous a conduit dans cette logique. Peut-être la solution radicale, ce serait de sortir le pays de l'euro. Et je ne sais pas quelle sera l'interférence entre le Brexit et le Grexit, notamment sur la question de l'avenir de l'euro et de la place de la Grèce dans le système monétaire européen.
Alors ce premier tour de table nous permet de faire un bilan, on va dire, un état des lieux de la Grèce aujourd'hui. Je vous propose que maintenant on rentre un petit peu dans le détail de chacun des éléments qui ont pu être évoqués par chacun d'entre vous. Et je reviens vers vous, Angélique Kourounis. Jean-Marc Daniel le rappelait dans son intervention, il y a eu un allègement de la dette grecque, il y a la BCE qui autorise la Grèce à revenir, à accéder de nouveau au quantitative easing, pardon, et à l'emprunt. Alors, comment est-ce que vous voyez cette situation? C'est-à-dire, est-ce que il y a véritablement une Grèce qui revient à une situation normale, une situation économique normale?
Moi, je mettrais ce que vous venez de dire au conditionnel. Il va y avoir les aides financières qui ont été que vous avez dit. Pour l'instant, il n'y en a pas puisqu'on attend la seconde évaluation.
Qui devrait arriver en octobre, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Il va y avoir éventuellement, peut-être, une discussion sur la dette, qui était d'ailleurs la carte forte du gouvernement Tsipras l'année dernière, il y a un an, lorsqu'il a été obligé de signer, de capituler devant les créanciers, et il a essayé d'enrober cette capitulation en disant « oui, j'ai capitulé, mais j'ai 86 milliards sur 5 ans, et puis on va rediscuter de la dette ». La dette, elle est toujours à 181%. Un pays ne peut pas avancer avec une dette comme ça c'est très clair. Et ça, les créanciers, même entre eux, ne sont pas d'accord pour savoir quelle solution donner à ce problème. Mais aux 430 000 Grecs qui sont partis, s'ajoute une chose qui est dans le monde des affaires, qui est que 26 000 sociétés ont fermé uniquement les 12 derniers mois, et il n'y en a pas de nouvelles qui ouvrent. C'est-à-dire qu'on est dans un marasme. Alors oui, c'est vrai, il y a le tourisme, mais le tourisme ne peut pas sauver le pays. Le tourisme peut lui tenir la tête hors de l'eau, et c'est ce qu'il fait depuis 5 ans. On a un tourisme qui commence de plus en plus tôt, et une arrière-saison qui termine de plus en plus tard. Sauf que cette année, il y a une nouvelle chose, c'est la crise migratoire. Et la crise migratoire fait qu'il y a une fracture invisible dans ce tourisme entre l'Est et l'Ouest du pays. L'Est, où arrivent et restent les migrants, est délaissé par les touristes, donc il n'y a pas de rentrée, et l'Ouest est massivement plébiscité par les touristes. Ça, c'est un problème, et je pense qu'on verra la note à payer au courant octobre et novembre. Donc, les Grecs ont vraiment le sentiment que tout a été fait, toute la bataille a été donnée pour sauver le système bancaire. D'ailleurs, si on s'en tient aux révélations de la presse allemande, 90% des prêts accordés au pays ont été en faveur des créanciers et en faveur du système bancaire et pas en faveur de l'État. Les réformes qui s'attendent au niveau scolaire, hospitalier, la réforme pour lutter contre le clientélisme, pour lutter contre la bureaucratie, on attend toujours. La seule chose où votre invité a raison, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.
Ça a bien été mis en œuvre. Jean-Marc Daniel, j'aimerais qu'on reste juste un tout petit peu sur cette idée de la dette, de cette dette insoutenable. Il semble quand même assez acquis que les mesures d'austérité seront inutiles tant que cette dette sera à ce niveau-là, tant qu'elle ne sera pas renégociée, peut-être monétarisée. Je voudrais juste citer Adair Turner, qui est le président de l'autorité britannique de régulation des services financiers. Donc voilà, on ne peut pas soupçonner d'affreux gauchistes. Dans les échos, il disait que le remboursement serait impossible et il plaidait pour une annulation et une monétarisation de cette dette.
Oui, alors il faut bien voir qu'une dette, ça, 180%, ça n'a de sens que si on prend en compte le taux d'intérêt qu'on applique sur cette dette, c'est-à-dire combien elle coûte en pratique. C'est-à-dire avoir 180% d'endettement à 10%, c'est pas la même chose qu'avoir 180% d'endettement à 3%.
Concrètement, en ce moment, la Grèce rembourse combien? C'est quoi l'exercice de la dette?
Alors, justement, la plupart des États ne remboursent pas. C'est-à-dire que dans un État, il y a un processus de revolving, votre dette arrive à échéance et elle est resouscrite immédiatement. Ce que paie un État, c'est les intérêts sur cette dette. Et à l'heure actuelle, ce que paie l'État grec sur sa dette, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros. Donc ces 6 milliards d'euros, pour l'État grec, c'est
en pourcentage de budget
Alors ça représente à peu près 3% du PIB. Donc c'est à peu près ce que frappé beaucoup de gens, beaucoup d'autres pays. Ce qui est en question dans cette affaire, c'est que chaque fois qu'il arrive une échéance, les gens qui détiennent cette dette grecque en ce moment, maintenant, c'est la BCE, le FMI et essentiellement le mécanisme européen de stabilité. Puisque la partie qui était détenue par les agents privés a été en partie annulée, ce qu'on a appelé le haircut, qui est une façon distinguée de dire une banqueroute.
Qui n'a rien à voir avec le coiffeur de François
Hollande. Voilà, voilà. Au XVIIIe siècle, on aurait dit que c'était une banqueroute, c'est-à-dire le système privé, les banques privées ont accepté un haircut d'un peu plus de 100 milliards d'euros. Ce qui reste est détenu donc par des instances publiques, et le véritable enjeu, et c'est ça le véritable problème en ce moment, c'est que cette dette est relativement à échéance courte, donc régulièrement, la Grèce est obligée de revenir devant ce qui s'appelle maintenant les institutions, avant qui s'appelait la Troïka, et qui à chaque fois passe son temps à faire une espèce d'examen notarial de ce qu'a fait la Grèce et ce que n'a pas fait la Grèce.
Mais c'est ce qui l'empêche d'avancer, c'est d'avancer. Des pètes d'Avoclès, ce défaut de paiement qui peut arriver à chaque moment.
Ce que disait Tsipras dans un article qu'il avait publié dans Le Monde au mois de mai 2015, c'est que le problème de la Grèce, c'était pas la dette, c'était l'incertitude. Et je pense qu'il a raison, et l'incertitude, elle est double. Elle est double de la part du comportement de la Troïka, qui est devenue les institutions. Et donc, je pense qu'effectivement, plus qu'une annulation, ce dont a besoin la Grèce, c'est un étalement de la dette, ce que fait d'ailleurs en partie le FESF, et la certitude d'avoir un échéancier clair, simple, où il n'y ait pas une remise en cause. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut lever l'incertitude de la politique de M. Tsipras lui-même. C'est-à-dire, il a fait des choix de politique dans la politique d'austérité. À un moment donné, vous avez un impôt sur les sociétés qui apporte un peu plus de 2 milliards en Grèce, et les institutions lui ont donné le choix entre faire 2 milliards d'économies sur la masse salariale et 2 milliards d'économies pour l'impôt sur les sociétés, pour alléger la charge des entreprises. Il a choisi de faire l'économie, de maintenir l'impôt sur les sociétés, de ne pas faire les 2 milliards d'économies sur la masse salariale. Donc il y a des choix de politique économique qui sont des choix de politique économique. Comme l'a dit d'ailleurs votre correspondante à Athènes, il essaie effectivement de colmater les brèches. Et ça génère une espèce de vision à court terme. Regardez, il a quand même effectivement accepté tout ce qu'on lui demandait, et puis il a tweeté pour le premier anniversaire du référendum. Ce fut un acte héroïque et enfin c'est un acte vain ce référendum. C'est
plutôt oui, parce qu'une semaine après, on rappelle qu'il est allé signer.
Il a capité en race campagne. Donc il y a une espèce d'incertitude qui est liée à son comportement qui nuit, là je pense, à la crédibilité et à la croissance à long terme de la Grèce.
Michel Vakaoulis, vous nous parliez de l'Europe tout à l'heure. Ce que vient de dire Jean-Marc Daniel sur cette question de l'incertitude. Je rappelle juste que peut-être récemment il y a eu un petit pas des Européens vers la Grèce. Donald Tusk qui a dit que la Grèce a franchi un cap critique. Jean-Claude Juncker qui parle de courage, de détermination du peuple grec, qui voulait saluer. Voilà, c'était il y a peu de temps, hein, fin juin.
Oui, mais c'est un peu hypocrite. Il s'agit d'amadouer quelqu'un qui a le profil de bon élève, parce qu'il fait exactement ce qu'on lui demande. Moi, je serais d'accord sur le fait que la Grèce pratique la politique gouvernementale. C'est un bricolage perpétuel. C'est-à-dire, on a des dilemmes. Est-ce qu'on doit taxer davantage, augmenter la TVA, augmenter les impôts de société. Il y a toujours un bricolage permanent qui entretient une incertitude, y compris en ce qui concerne le climat des investisseurs. Mais cette incertitude n'est pas simplement un sentiment subjectif, hein, c'est pas une lubie subjective des individus. Il y a un substrat matériel. Le substrat matériel, c'est la dette souveraine. Après, on peut discuter s'il s'agit de le mesurer autant que stock ou autant que flux. Autant que stock, ça représente 183% du PIB. C'est un peu le point de vue du FMI. Si on le mesure autant que flux, c'est sur une année combien pourcent du PIB représente le service de la dette. Et les économistes disent qu'au-dessus de 15%, la dette n'est plus crédible, n'est plus payable d'une certaine manière. Voilà. Mais au-delà de cela, il n'y a aucune logique pour l'instant d'alléger la dette, y compris à l'horizon de la fin du programme actuel qui expire, je crois, fin 2018. Il ne s'agit pas d'alléger la dette, c'est-à-dire de supprimer purement et simplement une partie de la dette, mais de faire une sorte de reprofilage des prêts européens, parce que le FMI récuse complètement toute idée d'alléger ses propres dettes, et donc d'allonger davantage les échéances de remboursement. Au lieu de rembourser la dernière traite fin 2050, de le faire à la fin du siècle, par exemple. Mais tout cela ne répond pas à la question principale, c'est-à-dire à partir de quelles mesures concrètes on peut redynamiser l'économie autre que les mesures d'austérité appliquées jusqu'ici.
Angélique Couronis, vous nous parliez des entreprises qui ferment. Il y a aussi les entreprises qui sont privatisées. Récemment, le 1er juillet, voilà, le Parlement grec a autorisé la cession de 67% de la société du Pirée, le port du Pirée, donc à une compagnie chinoise. C'est évidemment un exemple parmi beaucoup d'autres. Est-ce que aujourd'hui, pour reprendre, je crois, une expression de Michel Vakalulis dans un entretien que j'ai lu de lui, est-ce que la Grèce aujourd'hui est en train de vendre les bijoux de famille?
Oh, mais ça fait un moment. C'est la vente à la découpe, c'est au moins au franc, parce que quand vous êtes dans un marché en train de marchander dans un souk, eh bien, vous voulez avoir le prix le moins cher. Donc, c'est non seulement les richesses nationales qui sont vendues au moins au franc, mais c'est surtout, ça n'a aucun sens dans la mesure, en tout cas, c'est ce que disent les détracteurs, dans la mesure où une fois qu'on aura tout vendu, on fait quoi? Le problème de ce pays, c'est qu'il doit produire. Il doit produire une richesse, il doit faire rentrer de l'argent via la relève de l'impôt, et vendre ses richesses, c'est bien, il y a de l'argent une bonne fois pour toutes, mais cet argent va aux créanciers. Alors la différence avec le gouvernement précédent, c'est que le gouvernement de Tsipras a décidé qu'une partie du produit de la vente va aller dans l'économie, va être injecté pour faire redémarrer l'économie réelle et les projets qui pourraient faire sortir le pays du marasme. J'aimerais revenir sur une petite notion qui a été discutée, cette notion de bricolage. C'est vrai que de loin, on peut imaginer que ce que fait le gouvernement actuel est un peu le bricolage, parce qu'il dit oui d'un côté aux créanciers, puis une fois qu'il est dans le pays, il essaye de trouver quelque chose qui atténuerait la rigueur de l'austérité.
Oui, vous parliez de saupoudrer un peu de politique sociale, vous pensiez à quoi,
voilà,
exactement?
C'est un peu de poudre de parlapimpin. Oui, mais cette poudre de parlapimpin, en fait, concrètement, c'est 35% des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est des gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. C'est des écoles qui ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de chauffage. C'est des familles qui sont touchées. Il n'y a pas de famine en Grèce, il n'y a pas de faim. Mais ce n'est pas des cas isolés. Il y a des enfants qui s'évanouissent le matin parce qu'ils n'ont pas eu de repas. Donc il y a 70 000 repas, par exemple, distribués par l'Église. Il y a des recettes populaires et des cuisines populaires qui sont distribuées dans tout le pays. Ce n'est pas, on n'est pas en Afrique subsaharienne, on est à 3 heures de Paris. C'est un pays qui vit depuis maintenant 5 ans une crise, je dirais jamais humanitaire, par respect pour ce qui se passe dans d'autres pays, mais qui vit une crise extrêmement sévère, et qui, s'il n'y avait pas les réseaux de solidarité, et s'il n'y avait pas le peu de solidarité qu'il y a actuellement pour atténuer la rigueur de l'austérité, je ne sais pas quel serait le résultat. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ce qui fait que la force actuellement encore du Syriza, d'abord c'est qu'en face il n'y a personne, et c'est que les Grecs sont quand même convaincus que cette austérité sera mieux partagée. Et encore une fois, le fait qu'il y a des succès dans la lutte contre l'évasion fiscale, notamment grâce à une excellente coopération avec les services allemands, ça c'est peut-être la seule chose qui donne encore un peu d'espoir aux Grecs.
Du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Du grain à moudre d'été ce soir avec Michel Vakalulis, Jean-Marc Daniel et Angélique Couronis, un an après le plan de sauvetage de la Grèce, le troisième plan de sauvetage de la Grèce. On parle de la situation de ce pays. Alors, Angélique Couronis vient d'évoquer la situation sociale qui est évidemment à discuter, la situation politique aussi, mais j'aimerais qu'on reste encore un tout petit peu sur la situation économique, si vous le voulez bien, pour les quelques minutes encore qui suivent. Jean-Marc Daniel, les privatisations qu'on évoquait, celle du port du Pirée, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres, devaient nous disait-on, rapporter 50 milliards d'euros. Dès tout de suite, plusieurs économistes ont dit c'est impossible. Si on fait l'addition, on n'arrivera jamais à cette somme-là. Ce qui nous fait nous interroger, évidemment, est-ce que ces demandes de privatisation sont d'ordre rationnel ou est-ce qu'il y a un aspect purement idéologique de l'intervention de l'Europe sur ces questions?
Il y a les deux aspects. Il y a un aspect idéologique qui consiste à constater que dans beaucoup de pays, le secteur public est assez peu productif. Et donc, on recherche dans la privatisation la capacité à améliorer la productivité d'un certain nombre de secteurs publics. La Grèce n'est pas la seule à privatiser. Margaret Thatcher avait aussi réduit sa dette publique en privatisant, et la France est en train de vendre l'aéroport de Lyon et l'aéroport de Nice. Donc, de façon, pas avec le couteau sous la gorge, hein, de façon réfléchie en disant que...
Parce que là, je crois que la vente de tous les aéroports grecs, c'était quand même plutôt une braderie qu'une vente.
Alors, le véritable, j'en reviens là, à cet aspect-là, c'est-à-dire que...
14 aéroports.
Quand on regarde l'accord qui a été passé, la séquence d'engagement, encore une fois, il y avait un premier engagement monétaire qui est en train d'être résolu. J'insiste sur le fait que c'est très important ce qui s'est passé dans la décision de la BCE qui permet à la Grèce d'être véritablement maintenant dans le réseau monétaire européen. C'est fini le contrôle d'échange. Progressivement, on va...
Les couronnistes mettaient en doute l'allègement de la dette ou la...
Non, c'est pas l'allègement de la dette. Là, c'est le fait que concrètement, les banques grecques avant, quand elles allaient se refinancer auprès de la BCE, passaient par un guichet où c'était plus cher que le guichet ordinaire. Bon, avec comme conséquence qu'elles répercutaient ça sous forme de taux d'intérêt relativement élevés à leurs clients. Et d'autre part, pour essayer de ne pas aller trop souvent vers la BCE, il y avait des conditions qui étaient de contingentement, d'organisation, de la limitation de la capacité de la population grecque à retirer des billets. Alors, tu as été contourné, puisque la Grèce est le pays de toute l'Union européenne où il y a le plus de billets rapportés à la production. C'est-à-dire, c'est de très loin, il y a deux fois plus de billets en moyenne en circulation en Grèce que par rapport aux autres. Donc ça, c'est ce premier aspect. Sur l'aspect budgétaire, le véritable enjeu, c'était effectivement d'arriver d'abord dans un premier temps à l'équilibre hors charge d'intérêt. Donc ça, c'est acquis. Et en 2018, on l'a dit, la prochaine échéance, c'est 2018. Et en 2018, les comptes publics seront équilibrés. Et il y avait un troisième aspect qui était de dire, au-delà donc de l'équilibre, c'est-à-dire quand on est en déficit, on crée de la dette. Quand on est à l'équilibre, on arrête de créer de la dette. Donc quand le but, c'est d'arrêter de créer de la dette. Pour apurer la dette ancienne, c'était effectivement de vendre une partie des actifs. Ce qui avait bien été dit à l'époque, vous vous souvenez de tout le débat, c'est est-ce que la structure qui va réaliser les privatisations va être logée à Luxembourg ou est-ce qu'elle va être logée à Athènes? L'idée qui était de la loger à Luxembourg, c'était de faire en sorte que ce soit pas une braderie et que ce soit pas les petits copains qui rachètent, que ce soit véritablement quelque chose qui soit bon. L'idée derrière tout ça, c'est justement de ne pas agir dans l'urgence, de dire écoutez, on vendra ça au meilleur prix. Et on fera en sorte que la conséquence de la vente, et vendre au meilleur prix, ça suppose effectivement qu'on n'ait pas le couteau sous la gorge, ça suppose aussi qu'il y ait des réorganisations internes dans un certain nombre d'entreprises. Il y a des grands enjeux sur l'électricité hellénique qui est une espèce de serpent de mer, quand est-ce qu'on privatise l'électricité en Grèce, et il y a un sureffectif dont on demande à l'autorité grecque de réduire. Et donc, on rejoint le dernier aspect, c'est-à-dire, de même que Tsipras n'a pas voulu réduire la masse salariale, c'est 22 milliards d'euros, la masse salariale publique en Grèce, c'est un des pays rapportés au PIB qui a une masse salariale publique la plus importante. Et vous avez beaucoup de salariés dans le... Est-ce que ce secteur public, il est là pour rendre un service, ou est-ce qu'il est là en amortisseur des tensions sociales et des difficultés sociales que
rencontre
le pays?
En l'état actuel des choses, avec le taux de chômage qui est
avec
près de 25%,
chômage.
Avec la situation de la croissance, etc. C'est peut-être pas le moment, j'entends Angélique Cournet, c'est peut-être pas le moment réduire cette masse salariale.
Le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on raisonne à court terme en essayant de limiter la casse sociale, et ce, je le comprends, ou est-ce qu'on essaie de se dire véritablement, il faut engager une politique de croissance portée par le secteur privé et qui serait portée par un secteur privatisé.
Vous vouliez réagir, Angélique Cournet?
Oui, je veux réagir parce que la Grèce a amélioré son chômage. Elle était à 28, maintenant il est à 24-25%, le plus haut taux de l'Union européenne, qui touche 50% des jeunes. On comprend qu'il y en a 400 000 qui s'en vont, donc on ne peut pas demander au gouvernement, quel qu'il soit, que ce soit celui de Tsipras ou de Samaras, de réduire la masse salariale. Et quand on parle de politique à court terme, mais ça fait 5 ans qu'on fait des politiques à court terme en Grèce, les plans d'austérité qui ont été appliqués n'ont pas été des plans ni à moyen terme ni à long terme, qui pouvaient restructurer le pays, mettre à bas l'économie, lutter contre la bureaucratie, la fraude, tout ce dont ce pays a besoin, ça n'a jamais été l'objet. On a fait des politiques à court terme pour que les créanciers soient sûrs, et c'est normal, qu'ils puissent récupérer leur mise. Moi, j'ai rien contre, mais qu'on dise pas qu'il n'y a pas de politique à court terme. Ça fait 5 ans qu'on fait que ça.
Oui, non, je pour vous soutenir, je pense que ce soit le PASO, que ce soit la Nouvelle Démocratie, ils n'ont pas fait mieux que ce que fait M. Tsipras en ce moment. C'est-à-dire, ils ont raisonné à court terme, à 6 mois, et le couteau sous la gorge.
Michel Vakaloulis.
Oui, le problème, c'est pas d'opposer le service, enfin, le secteur public, ce qui reste en tout cas, hein, parce qu'il y a des lambeaux qui restent par rapport à la productivité du secteur privé qui serait supérieur. D'autant plus, on sait très bien qu'en Grèce, le secteur privé, il était sous les auspices du public. Il y avait une sorte d'oligarchie entre l'élite politique qui rachetait des entreprises, l'élite médiatique. Il y avait une interconnexion, ce que les Grecs appellent diaploquie, et cette interconnexion est en partie responsable de la corruption généralisée, y compris de l'évasion fiscale. Alors, sur le secteur public, il y a très peu de propriétés en termes d'entreprises publiques qui restent, y compris le cas d'électricité, par exemple. L'ouverture du capital a eu lieu. L'État contrôle à peine 51% de l'opérateur national. Et là, la discussion est de privatiser l'équivalent de RTE, du réseau transport électricité de la Grèce, qui est une infrastructure à caractère monopolistique. Voilà. Comme en France d'ailleurs, EDF, le groupe EDF peut-être voulait privatiser, en tout cas ouvrir le capital de RTE. Et la question de la Grèce concernant cette propriété publique, c'est jusqu'ici n'a pas été vraiment valorisée. Le problème maintenant, c'est que est-ce que ces formes de privatisation vont donner un coup de fouet à l'économie? Et on voit que ce n'est pas exactement le cas. On voit que les Chinois achètent les infrastructures portuaires, les Allemands ont acheté les aéroports, les Italiens vont acheter le système ferroviaire. Finalement, il n'y a pas de grandes entreprises publiques à part encore l'électricité. Tout a été vendu ou privatisé. Il ne reste que les infrastructures. Ou à la limite, on serait dans la logique de privatiser des îles, de privatiser des musées, l'acropole, c'est-à-dire de tout céder dans cette hyper-caisse de privatisation où toute la propriété publique sera là à peu près pour un siècle.
Angélique Coronici, il y a les privatisations, mais Alexis Tsipras a dû faire aussi beaucoup d'autres réformes. On pense à une réforme de la TVA, vous l'avez dit, elle a été augmentée, elle va être réaugmentée, une réforme fiscale, la réforme des retraites, réforme du marché du travail, je crois qu'il doit arriver, une réforme syndicale aussi à la rentrée. Où est-ce qu'on en est de ces réformes? Est-ce qu'il a bien coché toutes les cases aujourd'hui?
Alors, quand on parle du mot réforme, généralement c'est pour faire quelque chose de mieux que ce qui existe. Or, ce qui se passe avec le mot réforme en Grèce depuis 5 ans, en fait, c'est que on déstructure, on détricote le peu d'état social qu'il y avait, on déstructure ce qu'il y avait, les relations de convention de travail, par exemple comme ce qui se passe actuellement en France, et puis on essaye de remplacer par des nouvelles lois qui sont extrêmement défavorables aux salariés. Et là, c'est une grande bataille qui est menée. Hier, il y avait le ministre du Travail qui avait réuni tous les syndicats pour essayer d'opposer un front met aux créanciers, parce que dans la logique de 24% de chômage dont 50% touchent les jeunes, eh bien, il n'est pas question d'autoriser ce que demande le FMI, des licenciements massifs et groupés. Ça, c'est une demande, ça fait 3 ans maintenant que le FMI veut que ces licenciements soient autorisés, ça fait 3 ans que le gouvernement grec, quel qu'il soit, résiste. Ça, c'est une chose. Il y a aussi les conventions collectives. Tsipras veut faire revenir les conventions collectives telles qu'elles étaient. C'est une bataille qui est menée avec les créanciers. Alors, il a fait la réforme de la sécurité sociale, il a fait la réforme des caisses de retraite, donc on a rallongé le temps de travail, les retraites complémentaires n'existeront plus dans un très moyen terme, elles ont à nouveau été baissées, il y a une augmentation des taxes et des impôts, la TVA je crois que c'est la 4e fois qu'elle augmente, donc il n'y a pas ce que moi j'appelle une réforme, c'est-à-dire quelque chose qui fait avancer le pays, qui vraiment lui donne des outils pour avoir une compétitivité, une croissance et un avenir. On est dans une logique d'épicerie, dans une logique d'huissier, c'est-à-dire que pour avoir la prochaine tranche, il faut que, comme vous avez dit, on coche les cases. Eh bien, ils cochent les cases, mais ça ne fait pas une politique visionnaire.
Jean-Marc Daniel.
Oui, pourquoi est-ce qu'on privatise et pourquoi est-ce qu'effectivement il y a un débat sur les conventions collectives et tout ça en Grèce? C'est parce que un des soucis, notamment du FMI, qui essaie de raisonner non pas de façon strictement comptable, mais avec un raisonnement un peu plus économique, c'est de faire revenir les investisseurs étrangers en Grèce. C'est-à-dire la Grèce a quand même bénéficié à un moment donné de pas mal d'investissements étrangers. Beaucoup de son système bancaire était par exemple entre les mains de banques italiennes et de banques françaises. Or cet investissement étranger a disparu. Et un des enjeux pour l'investissement d'une façon générale et puisque le tissu productif grec n'est pas capable de générer l'épargne dont on a besoin pour réaliser cet investissement, l'idée c'est de s'adresser à un investissement étranger. Et pour attirer les investisseurs, il faut qu'il y ait un code du travail qui soit relativement favorable, et on en revient à cet impôt sur les sociétés. Encore une fois, à un moment donné, le FMI disait, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de faire davantage d'efforts sur la dépense et de moins frapper sur le plan fiscal et même de faire dans certains lieux des zones franches.
Que comprenez ce que vous dites avec cet impôt sur les sociétés, c'est un arbitrage politique selon vous qui a amené Syriza à ne pas toucher à cet impôt.
C'est-à-dire Syriza a préféré ne pas alléger considérablement et aller vers une logique de zone franche. Thessalonique à un moment donné, c'est encore le cas d'ailleurs, était un des hauts lieux des start-up européennes.
C'est terminé.
Et c'est en train de disparaître. Effectivement, il y a un capitalisme de connivence en Grèce, qui est un capitalisme issu notamment de la période des colonels, mais qui existait encore avant. Et ce capitalisme se défait et il faut qu'il y ait un capitalisme de substitution qui apparaisse. Et ça suppose des investisseurs étrangers.
Michel Vakaoulis, je sens que vous avez envie de répondre à Jean-Marc Daniel, mais j'aimerais aussi qu'on parle des conséquences politiques. Comme vous êtes notre sociologue et maître de conférence en sciences politiques, ici autour de cette table, il nous reste quelques minutes. On a fait les conséquences économiques, les conséquences sociales. Il y a encore beaucoup à dire, j'en suis certain. Mais il y a aussi des conséquences politiques. Syriza est décrédibilisé. 86% des Grecs ne sont pas satisfaits de son action. Et on parle beaucoup de la montée d'un parti qui est le parti néo-nazi de Aube Dorée. Où est-ce qu'on en est avec ça? C'est vrai que ça nourrit l'euroscepticisme, ça nourrit la défiance vis-à-vis du politique, et donc ça nourrit nécessairement aussi ce type de parti.
Oui, on peut dire que toutes les évolutions, toute la mobilité politique, y compris du corps électoral, ne se trouve pas en apesanteur. Il y a toujours une interconnexion, une interaction constante, perpétuelle, entre les problèmes économiques et la représentation politique du pays. Et comme l'avait dit Angélique Kourounis dès le début de l'émission, les Grecs avait un certain espoir en janvier 2015 avec l'avènement de Syriza. Et suite à la capitulation de Syriza, cet espoir a été démenti. Il ne faut pas pour autant croire que la crédibilité des mesures qui sont prises depuis plusieurs années est très très haut dans l'estime du pays et des citoyens. Le consensus sur les mesures prises est peut-être aujourd'hui, enfin contre les mesures prises, est beaucoup plus fort que ne l'était au début de la crise. Ça impacte aussi le gouvernement de Syriza. Et paradoxalement, on voit dans les sondages que Syriza baisse, il est autour de 20, 23, 25%, ça dépend du sondage, mais la nouvelle démocratie n'augmente pas effectivement. Et la plupart des citoyens expriment leur mécontentement via la logique de l'abstention. Est-ce pour autant dire que d'autres forces périphériques peuvent prendre de la force électorale dans une prochaine confrontation électorale? Il est fort probable. C'est pas forcément l'Aube Dorée. Ça pourrait être une force politique à gauche désormais de Syriza, comme le Parti communiste ou une tendance plus gauchiste par rapport à ce qu'était historiquement et sociologiquement Syriza. Ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est une certaine déception vis-à-vis des politiques suivies et un manque d'avenir par rapport à la représentation politique du pays, étant donné que quel que soit le gouvernement sur place, le programme qu'il s'agit d'appliquer, c'est la feuille de route du troisième mémorandum validé et imposé par les créanciers du pays.
Angélique Kourounis, je rappelle que vous avez fait un documentaire consacré à l'Aube Dorée.
Oui, et la seule chose qui est constante dans ce pays, c'est que depuis 5 ans, les néo-nazis grecs sont la troisième force politique du pays. Et ils n'arrêtent pas d'augmenter. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Ce qu'a dit M. Vakoulis est exact. La nouvelle démocratie ne monte pas. Les déçus du Syriza vont s'abstenir. Mais il y a une constante montée des néo-nazis en Grèce. Il y a 18 députés actuellement. S'il y a des prochaines élections, il y en aura au moins autant. C'est extrêmement inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça se passe dans l'indifférence totale de l'Union européenne. C'est un parti néo-nazi. C'est pas un parti qui fait semblant. C'est un vrai parti raciste. Il a déjà tué 2 fois. Et il y a un problème. On ne donne pas de solution ni politique, ni économique, ni sociale à ce problème qui est la montée du parti néo-nazi grec.
Est-ce que, Michel Vakaoulis, la Grèce se trouve quand même dans une situation par rapport à l'Europe de défiance aujourd'hui, de défiance complète? Est-ce qu'on peut aller vers un Grexit?
Et de situation de défiance et d'euroscepticisme, c'est exactement le cas. Mais en même temps, les Grecs se sentent européens, ont des liens historiques, politiques, culturels avec l'Europe, se sentent aujourd'hui très solidaires aux Italiens et le problème de la crise bancaire italienne, parce que les banques grecques, M. Daniel vient de le dire, viennent d'être recapitalisées, très fortement d'ailleurs, se sentent solidaires aux Espagnols, où là aussi, il y a un problème de gouvernabilité, ou aux Portugais, où il y a un gouvernement socialiste.
Oui, rappelé, j'ai rappelé cette décision de l'Union européenne de sanctionner l'Espagne et le Portugal aujourd'hui. Oui.
Oui, effectivement. Et du coup, c'est dans un positionnement tout à fait contradictoire. Une certaine image de l'Europe les répulse, et en même temps, ils se sentent européens vers une autre politique. Mais l'euroscepticisme consiste à dire, est-ce que l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est réformable? Ou à la limite, passer comme les Britanniques au Grexit, y compris en partant carrément de l'Union européenne.
Jean-Marc Daniel, quand on a analysé les causes du Brexit, on a pu dire que l'intransigeance allemande, notamment en termes budgétaires, était l'une des causes de ce Brexit. Aujourd'hui, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que la décision de l'Europe de sanctionner, ou en tout cas de vouloir sanctionner les dérapages budgétaires du Portugal et de l'Espagne, était un mauvais signe, notamment un mauvais signe politique qui nourrit l'euroscepticisme. Est-ce que aujourd'hui, voilà, cette politique économique qui est menée, d'orthodoxie budgétaire, elle n'a pas des conséquences aussi politiques qui devraient être prises en compte?
Je crois que c'est moins la politique qui est menée que le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, vous regardez les comptes publics français, vous apercevez que la France est au-delà des 3%. La France n'a fait les 0,5% de réduction du déficit, ce qu'on appelle l'effort structurel. Et la France passe au travers des mailles du filet. Alors qu'on a l'impression, effectivement, qu'il y a eu un acharnement sur certains pays, et notamment sur la Grèce. Et je crois que le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures, qu'il y a deux clubs, et que, effectivement, si vous êtes, c'est du La Fontaine. Ce sentiment-là nuit à la crédibilité. Je pense qu'il y a une deuxième chose qui a beaucoup joué en ce moment dans le doute des Grecs, c'est la crise des migrants. C'est-à-dire que la Grèce est quand même en première ligne, dans un monde autour d'elle qui est extrêmement déstabilisé, dangereux. La Turquie, qui était là, encore une fois, il y avait une zone touristique, on peut plus aller à Éphèse. Et donc, Éphèse, c'est quand même dans la logique culturelle. Oui, c'est dans la logique culturelle de ce que produit et de ce qu'offre la Grèce sur le plan touristique. Et donc, je pense là aussi, or, il se trouve, et là, l'Allemagne a plutôt, à mon avis, assez bien joué, c'est-à-dire quand les Autrichiens ont été assez violents au sommet européen de décembre dernier contre les Grecs, accusant la Grèce de ne pas être capable de faire face aux problèmes migratoires et de laisser passer les gens et de devant le spectacle qu'il y avait à la frontière macédonienne, les Allemands ont dit non, les Grecs font ce qu'ils peuvent et au lieu de les condamner, on doit les aider. Donc je pense qu'il faut que ce discours soit davantage développé en Europe vis-à-vis de la Grèce en expliquant qu'effectivement, si la Grèce a choisi de rester, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on fasse des efforts pour elle.
Angélique Kournis, pour conclure, il ne reste que quelques secondes, mais quelles sont les prochaines échéances pour la Grèce?
La prochaine échéance, c'est l'évaluation. On attend toujours l'évaluation de l'équipe de vérification des représentants des créanciers du pays, oui, des institutions. Enfin bon, dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et pour voir si la prochaine tranche va être octroyée, bon, on est toujours dans cette logique d'huissier. Et puis les Grecs attendent de voir comment est-ce que cette Europe, ils sont assez perplexes. Le Brexit les a un peu, ça les a beaucoup fait rire en disant, tiens, on parlait du Brexit, finalement, c'est pas nous qui avons foutu la pagaille, on attend de voir. Ils espèrent toujours quand même quelque part qu'il va y avoir quelque chose qui va faire changer cette Europe. Il reste européen, c'est très clair, mais les eurosceptiques sont de plus en plus nombreux.
Merci beaucoup Angélique Kournis, je rappelle que vous étiez depuis Athènes, vous êtes la correspondante de Radio France là-bas et on vous entend régulièrement sur nos journaux. Merci aussi à vous Michel Vakalolis et Jean-Marc Daniel d'avoir participé à cette émission du Grain à Moudre d'été, une émission préparée avec Alexandre Agège, Laurence Genepin, Catherine Donnet et Tanguy Omri. À la réalisation Véronique Villa et à la technique aujourd'hui c'était Jacques Hubert. Le Grain à Moudre d'été, c'est à réécouter et podcaster sur franceculture.fr.